Chapitre 44. Beverly Hills, jeudi 23 avril 1981. En ce début d'après-midi, Tony Harrod était allongé sur un lit dans le Beverly Hills Hilton Hotel et pensait à l'amour. Ce sujet ne l'avait guère intéressé jusqu'ici. À ses yeux, l'amour n'était qu'une farce ayant engendré des milliers de banalités, un mot servant d'excuse aux mensonges, aux tromperies et à l'hypocrisie qui caractérise les relations entre les deux sexes. Tony Harrod se targuait d'avoir baisé des centaines de femmes, voire des milliers, sans avoir jamais feint d'en aimer une seule, même s'il avait cru éprouver quelque chose qui ressemblait à de l'amour durant les ultimes instants de leur soumission, alors qu'il atteignait enfin l'orgasme. Et voilà que Tony Harrod était amoureux. Il pensait constamment à Maria Chen. Ses doigts n'avaient aucune peine à se rappeler la texture de la peau de Maria Chen. Il rêvait au doux parfum de Maria Chen. Les cheveux noirs, les yeux noirs, le doux sourire de Maria Chen flottait à la lisière de sa conscience, telle une image aperçue du coin de l'œil, une image insaisissable qui s'évanouit dès qu'on tourne la tête. Le simple fait de prononcer son nom lui procurait une étrange sensation. Harrod se croisa les doigts sur la nuque et s'abîma dans la contemplation du plafond. Les draps froissés étaient encore imprégnés du parfum marin du sexe. Dans la salle de bain, la douche coulait toujours. Harrod et Maria Chen n'avaient rien changé à leur vie quotidienne. Elle lui apportait son courrier chaque matin pendant qu'il prenait son bain, répondait au téléphone, rédigeait sa correspondance, puis l'accompagnait au studio pour observer le tournage de « Traite des Blanches » et visionner les rushs de la veille. Suite à des problèmes avec les syndicats britanniques, le tournage se déroulait dans les studios de la Paramount plutôt qu'à Pinewood, à la satisfaction de Harrod, qui pouvait ainsi en surveiller le déroulement sans avoir à passer plusieurs semaines à l'étranger. La veille, Harrod avait visionné les scènes de Janet Delacourte, le boudin de 28 ans qui interprétait le rôle écrit pour une nymphette de 17 ans, et il avait soudain imaginé Maria Chen à sa place. Les expressions subtiles de Maria Chen, au lieu des grimaces forcées de Delacourte, la nudité séduisante et sensuelle de Maria Chen, au lieu de la lourde chair pâle de la starlette. Harrod et Maria Chen n'avaient fait l'amour que trois fois depuis leur retour de Philadelphie. Harrod ne comprenait pas cette volonté d'abstinence, mais elle suscitait en lui un désir qui n'était plus seulement physique. Maria Chen ne quittait pas ses pensées un seul instant. Le simple fait de l'avoir traversé une pièce l'emplissait de plaisir. La douche s'arrêta, et Harrod entendit un froufrou de serviette éponge, suivi par le bourdonnement d'un sèche-cheveux. Il essaya d'imaginer une existence passée aux côtés de Maria Chen. Ils étaient tous deux assez riches pour se permettre de tout plaquer et de vivre dans le confort pendant 2 ou 3 ans. Ils pouvaient aller n'importe où. Harrod avait toujours eu envie de prendre le large, de se trouver une petite île dans les Bahamas ou ailleurs, et d'essayer d'écrire autre chose que des scénarios pour films de gore minables. Il se vit en train de rédiger un adieu obscène à Barent et à Kepler, et de foutre le camp vers les tropiques. Maria Chen revient de la plage, vêtue de son maillot de bain bleu marine. Ils devisent tous les deux en buvant du café et en mangeant des croissants, tandis que le soleil se lève sur le lagon. Tony Harrod aimait bien se sentir amoureux. Janet Delacourte sortit de la salle de bain en tenue d'Ève, et secoua ses longs cheveux blonds sur les épaules de Harrod.
« Tony, mon chou, t'aurais pas une cigarette ?»«
Non. »
Harrod ouvrit les yeux pour la détailler. Janet avait le visage d'une gamine de 15 ans revenue de tout et des seins à faire bander Rossmeyer. Les 3 films qu'elle avait tournés n'avaient permis de déceler chez elle aucun talent d'actrice. Elle avait épousé un milliardaire texan de 63 ans, qui lui avait acheté son propre pur sang. Un rôle de diva pour une unique représentation lyrique, dont le tout Houston s'était gaussé pendant plusieurs mois, et qui était en ce moment affairé à lui acheter Hollywood. La semaine précédente, Shu Williams, le metteur en scène de Traite des Blanches, avait confié à Harrod que De La Courte serait incapable de jouer une femme qui tombe, même si on la poussait du haut d'une falaise. Harrod avait rappelé à Williams d'où venaient 3 des 9 millions de dollars qui finançaient le projet, et lui avait suggéré de réécrire le scénario pour la 5e fois, afin d'en éliminer les scènes où Janet devait accomplir une tâche qui la dépassait. Parler, par exemple, et d'y rajouter des scènes de harem ou de baignoire.
C'est pas grave, j'en ai une dans mon sac à main.
Elle fouilla dans un fourre-tout plus volumineux que le sac de voyage de Harrod.
Tu ne dois pas retourner au studio aujourd'hui ?
Demanda Harrod.
Pour refaire la scène du sérail avec Dirk ? Non.
Elle mâchait du chewing-gum tout en fumant, réussissant à accomplir ses 2 activités la bouche ouverte.
Shu dit qu'on ne pourra pas faire mieux que la prise de mardi.
Elle s'affala sur le lit, ses énormes seins reposant sur les mollets de Harrod, tels des melons à l'étalage. Harrod ferma les yeux.
« Tony, mon chou, c'est vrai que c'est toi qui es l'original de cette bande vidéo ?»«
Quelle bande vidéo ?»«
Tu sais bien, celle où la petite Sheila Barrington s'amuse avec une bite. »«
Oh, cette bande ?»«
Ouais, elle dure 10 minutes. » Et j'ai dû la voir plus de 50 fois ici et là ces derniers mois.
Je croyais que les gens se fatigueraient de la reluquer. Elle a vraiment des seins ridicules, pas vrai ?
Fit Harrod. J'étais à la soirée de charité où elle était invitée. Tu sais, le truc pour les gamins handicapés de je ne sais plus quoi. Elle était à la même table que Dreyfus, Clint et Meryl. Cette Sheila est si fière. Qu'elle croit sûrement que son caca sent la rose. Tu vois ce que je veux dire?
C'est bien fait pour elle.
Tout le monde se fout de sa gueule et la regarde d'un drôle d'air.
C'est ce qui s'est passé ce soir-là?
Oh oui, Don est si drôle. Il était en train de faire un discours, tu vois. Il se moquait de toutes les personnes assises à cette table. Quand ça a été le tour de Sheila, il a dit quelque chose comme...
Et nous avons la joie de compter parmi nous une des plus gracieuses jeunes sirènes depuis qu'Esther Williams a raccroché son bonnet de bain.
Ou quelque chose d'approchant, tu vois, mais encore plus drôle. Alors, c'est toi qui l'as ?
Quoi donc ?
Tu sais bien l'original de la bande vidéo. Si tout le monde en a une copie, qu'est-ce que ça peut te foutre de savoir où est l'original ?
Tony, mon chou, je suis curieuse, c'est tout.
Je veux dire, oh, ce serait marrant si c'était toi qui avais tourné cette bande, après que la petite Sheila t'a envoyé sur les roses, rapport à Tête de Planche.
Tête de Planche?
Oh, c'est comme ça que Chou appelle le projet. Tu sais, comme dans la mélodie du bonheur. Pendant le tournage, Chris Plummer appelait ça la mélodie du bon beurre. C'est comme ça qu'on appelle le film entre nous.
Charmant.
Qui t'a dit que j'avais proposé le rôle principal à Barrington ?
Oh, mon chou !
Tout le monde sait qu'elle a été la première pressentie. Tu aurais eu ton budget de 20 millions si Miss Sainte-Nitouche avait signé, je crois.
Janet de la Courte écrasa sa cigarette et éclata de rire.
Bien sûr ! Maintenant, elle ne trouve plus rien. On m'a dit que Disney a annulé le projet de comédie musicale qu'elle devait tourner pour eux, et que Donnie et Marie n'ont pas voulu d'elle pour leur show spécial en direct de Hawaï. Sa vieille mormone de mère en a chié des briques, et on a fait une crise cardiaque ou quelque chose d'approchant. Oh, que c'est triste.
Elle chatouilla les orteils de Harrod et fit glisser ses seins le long de ses jambes. Tony Harrod se dégagea et s'assit au bord du lit.
Je vais prendre une douche. Tu seras encore là quand j'en sortirai?
Janet de la Courte fit claquer son chewing-gum, roula sur le dos et lui sourit.
« Tu tiens à ce que je sois encore là, mon chou ?»«
Pas spécialement. »
Elle roula sur le ventre.
« Eh bien, va te faire foutre, » dit-elle sans la moindre trace d'animosité dans la voix. « Je vais aller faire des courses. »
40 minutes plus tard, Harrod sortit du Beverly Hilton et tendit ses clés à un adolescent vêtu d'une veste rouge et d'un pantalon blanc.
« Laquelle prenez-vous aujourd'hui, Mr. Harrod ? »
demanda-t-il.
« La Mercedes ou la Ferrari ?»«
Aujourd'hui, je vais rouler Bosch, Johnny. »«
Bien, monsieur.
Harold plissa les yeux derrière ses verres réfléchissants et contempla les palmiers et le ciel bleu. Il décréta que le climat de Los Angeles était probablement le plus chiant du monde. Seul celui des quartiers sud de Chicago, où il avait grandi, soutenait peut-être la comparaison. La Mercedes s'arrêta devant lui. Harold en fit le tour, se prépara à tendre un billet de $5 à son conducteur et découvrit le visage souriant de Joseph Kepler.
« Montez, Tony, » dit Kepler. « Nous avons à parler, tous les deux. »
Kepler se dirigea vers Coldwater Canyon. Harold le fixa derrière ses verres réfléchissant.
« La sécurité du Hilton ne vaut décidément plus tripette, » dit-il. « On trouve même des clodos dans sa voiture à présent. »
Kepler lui adressa un sourire à la Charlton Heston.
« Je connais bien Johnny. Je lui dis que je voulais vous faire une blague.
« Ha, ha, ha !»«
Nous avons à parler, Tony. Vous l'avez déjà dit. »«
Vous êtes un marrant. »«
Pas vrai, Tony ?»«
Arrêtez vos conneries. Si vous avez quelque chose à me dire, dites-le. »
La route qui menait au canyon était sinueuse, et la Mercedes roulait trop vite. Kepler conduisait de façon désinvolte, n'utilisant que la main droite, le poignet posé en haut du volant.
« Votre ami Willy vient de se manifester, » dit-il. « Mettons les choses au point. Je veux bien bavarder avec vous, mais si vous l'appelez encore une fois « mon ami Willy », je vous fourre vos dents en or dans la gorge. « D'accord, mon vieux Joseph ?»
Kepler lança un regard à Harold.
« Willy vient de se manifester, et nous allons être dans l'obligation de réagir. »
« Qu'est-ce qu'il a encore fait ?»
Il a enculé la femme du président.
Ce qu'il a fait est plus grave et plus dramatique.
On joue aux devinettes ou quoi?
Peu importe ce qu'il a fait. Vous ne le lirez pas dans les journaux. Mais c'est quelque chose que Barent ne peut ignorer. Cela signifie que que Willy est prêt à jouer gros. Et que nous sommes obligés de réagir, d'une façon ou d'une autre.
C'est la politique de la terre brûlée, alors. On va tuer tous les Américains d'origine allemande âgés de plus de 55 ans?
Non. Monsieur Barent a l'intention de négocier.
Comment peut-il y parvenir s'il n'arrive même pas à retrouver ce vieux salopard?
Harold contempla les collines arides qui défilaient devant eux.
Vous ne croyez quand même pas que je suis toujours en contact avec lui?
Vous, non, mais moi, si.
Harold se redressa brusquement.
« Vous êtes en contact avec Willy ?»«
C'est de lui que nous parlons, n'est-ce pas ?»«
Ou... comment l'avez-vous retrouvé ?»«
Je ne l'ai pas retrouvé, je lui ai écrit, il m'a répondu. »« Nous entretenons une correspondance fort agréable. »«
Où lui avez-vous écrit, bon Dieu ?»«
J'ai envoyé une lettre recommandée à sa petite maison de la forêt bavaroise. »«
À Waldheim ?» Le vieux domaine près de la frontière tchèque? Il n'y a personne là-bas.
Barent fait surveiller le coin depuis que je suis allé y faire un tour en décembre.
Exact.
Mais les gardes forestiers employés par la famille continuent de veiller sur les lieux. Des Allemands nommés Meyer, le père et le fils. Ma lettre ne m'a pas été retournée, et quelques semaines plus tard, j'ai eu des nouvelles de Willy. Une première lettre postée de France. Une seconde de New York.
Qu'est-ce qu'il vous raconte ?
Harold était furieux de constater que son cœur battait deux fois plus vite que la normale.
Willy dit qu'il souhaite seulement adhérer au club et venir se détendre sur l'île cet été.
Tu parles ?
Je le crois. Je pense que ce vieux gentleman était froissé de ne pas avoir été invité plus tôt.
Et peut-être qu'il était un peu contrarié quand vous avez essayé de le dynamiter et que vous avez envoyé sa vieille amie Nina lui faire la peau.
« Peut-être, en effet, » concéda Kepler. « Mais je pense qu'il est prêt à enterrer la hache de guerre. »«
Qu'est-ce que Barent dit de tout ça ?»«
Monsieur Barent ne sait pas que je suis en contact avec Willy. »«
Bon Dieu ! Vous ne croyez pas que vous risquez gros en jouant à ce petit jeu ?»
Kepler eut un large sourire.
« Sa petite séance de conditionnement de l'autre jour vous a vraiment impressionné, n'est-ce pas, Tony ?»
Non, je ne risque pas gros. Barent ne fera rien, même s'il apprend la vérité. À présent que Charles et Niman ne sont plus de ce monde, la coalition de C. Arnold commence à trembler sur ses bases. Je ne pense pas que Barent souhaite s'amuser tout seul sur son île.
Vous allez lui en parler ?
Oui. Vu ce qui s'est passé hier, je pense que Barent me sera reconnaissant d'avoir trouvé un moyen d'entrer en contact avec Willy. Barent acceptera d'inviter le vieux pour les réjouissances de cet été, s'il est sûr que ça ne présente aucun risque.
Comment peut-il en être sûr ? Vous ne savez donc pas de quoi Willy est capable ? Rien n'arrêtera ce vieux fumier.
Précisément. Mais je pense avoir convaincu notre redoutable leader qu'il était moins risqué d'accueillir Willy parmi nous, afin de garder l'œil sur lui, que de le laisser œuvrer dans l'ombre à notre élimination. En outre, Barent est persuadé que toute personne entrant en contact personnel avec lui cessera à jamais de représenter une menace.
Vous pensez qu'il est capable de neutraliser Willy ?
Pas vous.
Kepler paraissait sincèrement curieux.
Je ne sais pas, dit finalement Harold.
Le talent de Barent semble unique, mais Willy...
Eh bien, je ne suis pas sûr que Willy soit entièrement humain.
Ça n'a aucune importance, Tony.
Que voulez-vous dire ?
Je veux dire qu'il est tout à fait probable que l'Island Club va bientôt connaître un changement de dirigeant.
Vous voulez vous débarrasser de Barent ?
Comment comptez-vous vous y prendre ?
Nous n'aurons rien à faire, Tony. Il nous suffit de rester en contact avec Willy, notre cher correspondant, et de l'assurer de notre neutralité au cas où il se produirait sur l'île des incidents désagréables.
Willy va participer au camp d'été ?
Seulement durant la dernière soirée ouverte au public. Ensuite, il se joindra à nous pour la chasse organisée la semaine suivante.
Je n'arrive pas à croire que Willy puisse se livrer ainsi à Barent.
Barent doit avoir au moins une centaine de gardes du corps à sa disposition.
Disons plutôt 200.
Ouais.
Le talent de Willy est impuissant face à une armée comme celle-là.
Pourquoi ferait-il une chose pareille ?
Barent donnera sa parole d'honneur qu'aucun mal ne sera fait à Willy.
Harold éclata de rire.
Ah, d'accord. Ça roule alors.
Willy poserait sa tête sur un billot si Barent lui donnait sa putain de parole.
Kepler avait pris la direction de Mulholland Drive. On apercevait déjà l'autoroute.
Essayez d'imaginer toutes les possibilités, Tony. Si Barent élimine le vieux gentleman, les affaires reprennent et vous êtes désormais membre actif. Si Willy a un atout dans sa manche, nous l'accueillons parmi nous les bras ouverts.
Vous pensez pouvoir coexister avec Willy ?
Kepler entra dans un parking non loin du Hollywood Bowl. Une limousine grise aux vitres teintées l'y attendait.
Quand on fréquente les serpents depuis aussi longtemps que moi, Tony, on se fiche de la nature du poison que recèlent les crocs du nouveau venu, à condition qu'ils ne mordent pas ses petits camarades.
Et Sutter ?
Kepler coupa le contact de la Mercedes.
Je viens d'avoir une longue conversation avec le révérend. Bien qu'il garde encore un certain attachement pour son ami Christian en souvenir de leur longue amitié, il est également prêt à rendre à César ce qui est à César.
Ce qui veut dire ?
Ce qui veut dire que Willy peut être assuré que Jimmy Wayne Sutter n'entretiendra aucune animosité à son égard, si le portefeuille de Mr. Barent change de main.
Vous voulez que je vous dise quelque chose, Kepler ? Vous seriez incapable de formuler une assertion toute simple, même si votre vie en dépendait.
Kepler sourit et ouvrit la portière. Une sonnerie d'alarme retentit et il dit
« Êtes-vous avec nous ou contre nous, Harold ?
Si être avec vous signifie me planquer et ne pas me mêler de vos affaires, je suis avec vous. »
« Assertion toute simple, » dit sèchement Kepler. « Votre ami Willy a besoin de connaître votre position. Avec nous ou contre nous ?»
Harold contempla l'immensité lumineuse du parking. Il se retourna vers Kepler
et ce fut d'une voix lasse qu'il laissa tomber. « Je suis avec vous. » Il était presque 23 heures lorsque Harold eut subitement envie de manger des hot-dogs avec de la moutarde et des oignons. Il reposa le script qu'il était en train de réécrire et se dirigea vers l'aile ouest, où la chambre de Maria Chen était encore éclairée. Il frappa à sa porte.
« Je vais faire un tour chez Pinks, tu viens ?»
Sa voix était étouffée, comme si elle lui parlait depuis la salle de bain.
« Non, merci. »« Tu es sûr ?»«
Oui, merci quand même. »
Harold enfila son blouson d'aviateur et sortit la Ferrari du garage. Il se régala au volant, maltraitant sa boîte de vitesse, grillant les feux rouges et semant sans difficulté deux amateurs de rodéo qui avaient commis l'erreur de vouloir le défier sur Hollywood Boulevard. Il y avait foule chez Pinks. Il y avait toujours foule chez Pinks. Harold mangea deux hot-dogs au comptoir et en emporta un troisième. Deux jeunes mecs draguaient deux nanas entre sa voiture et la fourgonnette sombre garée à côté, et l'un d'eux avait eu l'audace de s'accouder à la Ferrari. Harold se dirigea vers lui et colla son visage au sien. « Dégage ou ça va chier, morpion !» L'adolescent mesurait 15 centimètres de plus que Harold, mais il s'écarta de la portière, comme si la voiture venait de se transformer en radiateur déréglé. Les quatre jeunes s'éloignèrent lentement, sans cesser de regarder Harold, attendant de se trouver à une distance respectable pour lui lancer des injures. Harold étudia les deux filles. La plus petite ressemblait à une Chicano de classe, cheveux noirs et peau mate, vêtue d'un short de luxe et d'un t-shirt ultra court prêt à exploser. Harold imagina la surprise des deux minets des plages si cette poupée en chocolat venait le rejoindre dans la Ferrari pour laisser souffler un peu son t-shirt. « Et puis merde, » pensa-t-il, « je suis trop fatigué. » Il s'assit au volant, finit son troisième hot-dog, se rinça la bouche avec une boîte de tab, et il venait de tourner la clé de contact lorsqu'une douce voix dit « Mr. Harold ?» À 1,50 mètres de lui, la portière de la fourgonnette venait de s'ouvrir. Une nana noire était assise sur le siège avant droit. Son visage parut familier à Harold, et il lui adressa un sourire machinal avant de se rappeler où il l'avait déjà vu. Elle tenait quelque chose dans son giron, quelque chose qu'elle braquait sur lui. Harold desserra le frein à main, et il tendait la main vers le levier de vitesse lorsqu'il entendit un bruit similaire à celui d'un silencieux dans un film d'espionnage, et sentit une guêpe le piquer à l'épaule gauche.
« Merde !»
Il leva la main droite pour chasser l'insecte, eut le temps de s'apercevoir que ce n'était pas une guêpe, puis l'intérieur de la voiture bascula, et le tableau de bord vint le frapper en plein visage. Harold ne perdit pas tout à fait conscience, mais le résultat était le même. Il avait l'impression d'être banni dans le sous-sol de son esprit. Il voyait et entendait vaguement quelque chose, mais c'était comme regarder une vieille télé noir et blanc mal réglée, tandis qu'une radio grésillait dans une pièce voisine. Puis on lui passa une cagoule sur le visage. Cela ne fit guère de différence. De temps en temps, il avait l'impression de rouler sur lui-même, comme s'il se trouvait dans un canot, mais ses sensations étaient au mieux fugaces et trompeuses, et il lui était beaucoup trop pénible d'essayer de les trier. On le portait, du moins le crut-il. Peut-être était-ce ses propres mains qui serraient ses bras et ses jambes. Non, ses propres mains étaient derrière son dos, soudées par une bande de peau et de cartilage apparemment surgis du néant. Harold demeura dans les limbes pendant une durée indéterminée, ni conscient ni inconscient, flottant quelque part au sein de lui-même, dans une soupe primitive des plus agréables, composée de fausses impressions et de souvenirs confus. Il avait vaguement conscience d'entendre deux voix, dont l'une était la sienne, mais cette conversation, si c'en était une, lui parut ennuyeuse, et il s'immergea dans les ténèbres intérieures comme un plongeur se laissant emporter par le courant au sein de profondeurs purpurines. Tony Harold savait que quelque chose allait de travers, mais il s'en foutait complètement. Ce fut la lumière qu'il réveilla. la lumière et la douleur dans ses poignets, ainsi qu'une autre douleur qui lui rappela un passage d'Alien, le film de Ridley Scott, où la créature jaillit de la poitrine de ce pauvre diable. Comment s'appelait cet acteur déjà ? John Hurt. Pourquoi diable l'éblouissait-on ainsi ? Pourquoi avait-il mal au poignet ? Et qu'est-ce qu'il avait pu boire pour se retourner le crâne comme ça ? Harold s'assit, essaya de s'asseoir. Il fit une deuxième tentative et poussa un cri de douleur. Ce cri sembla déchirer le voile qui le séparait du monde. Il resta étendu et s'intéressa à des choses qui lui avaient paru jusque-là sans importance. On lui avait passé des menottes. Il gisait sur un lit entravé par des menottes. Son bras droit était sur l'oreiller à côté de sa tête, attaché au montant métallique de la tête de lit. Son bras gauche était collé contre son flanc, mais une menotte l'attachait à quelque chose d'invisible sous le matelas. Harold essaya de soulever son bras gauche. Il y eut un raclement métallique. Le montant du lit, ou un tuyau, ou autre chose. Il n'était pas encore prêt à lever la tête pour regarder ça de plus près. Peut-être tout à l'heure. Avec qui j'étais hier soir ? Certaines des amies de Harold étaient des adeptes du sadomaso, mais ils n'avaient jamais essayé de jouer les victimes. J'ai trop bu ? Vita a enfin réussi à me faire entrer dans sa chambre des plaisirs ? Il ouvrit à nouveau les yeux et les garda ouverts en dépit de la lumière qui lui poignardait le nerf optique. Une petite pièce blanche, un lit blanc, drap blanc, montant blanc, des murs blancs, un petit miroir au cadre blanc sur le mur d'en face, une porte. Une porte blanche avec un bouton de porte blanc. Une ampoule nue, une seule. Environ 10 millions de watts, vu son éclat, estima Harold, pendant à un cordon blanc. Harold était vêtu d'une blouse blanche de malade. Il sentit les boutons dans son dos et se rendit compte qu'il était nu en dessous. Bon, ce n'était pas Vita. Sa chambre des plaisirs avait un décor de velours et de pierre. Laquelle de ses connaissances était obsédée par les hôpitaux ? Aucune ? Harold tira sur ses menottes et sentit sa peau à vif au niveau des poignets. Il se pencha sur la gauche et regarda. Plancher blanc, poignet gauche attaché au montant blanc du lit. Inutile de recommencer à bouger, sauf s'il avait envie de vomir sur ce joli plancher blanc. Réfléchissons un peu. Harold redécrocha quelque temps. Un peu plus tard, lorsqu'il s'aperçut qu'il n'avait pas bougé de place, la même lumière, la même pièce blanche, la même migraine, mais un peu moins forte, il pensa à un hôpital psychiatrique. Avait-on profité de son inconscience pour le faire interner ? On ne met pas de menottes aux patients dans les hôpitaux psychiatriques, n'est-ce pas ? La terreur qui l'envahit alors le poussa à se débattre, à taper du pied, à tirer sur ses menottes, puis il retomba sur l'oreiller, haletant. Barent, Kepler, Sutter. Ces enculés de fils de pute l'avaient enfermé dans un endroit tranquille, où il allait passer le reste de sa vie à contempler des murs blancs et à pisser dans ses draps. Non, ils se seraient contentés de le tuer s'ils avaient voulu en finir avec lui. Puis Harold se rappela sa virée chez Pinks. Les gamins, la fourgonnette, la fille noire. C'était elle. Qu'avait dit Colben à Philadelphie ? Il pensait que Willy l'utilisait, ainsi que le shérif. Mais le shérif était mort. Harold était encore là-bas lorsque Kepler et Haynes s'étaient arrangés pour que son cadavre soit retrouvé dans une gare routière de Baltimore, afin qu'on ne puisse pas faire le rapprochement avec le fiasco de Philadelphie. Qui utilisait cette fille à présent ? Willy ? Peut-être. Peut-être n'était-il pas satisfait du message transmis par l'intermédiaire de Kepler. Mais pourquoi tout ce cinéma ? Harold décida de cesser de réfléchir pendant quelque temps. Ça lui faisait trop mal au crâne. Il allait attendre un visiteur. Si la fille noire revenait, et si son utilisateur, Willy ou un autre, lui avait laissé la bride sur le cou,
il y aurait des surprises.
Harold avait un besoin pressant d'uriner, et il venait de le manifester bruyamment lorsque la porte s'ouvrit enfin. C'était un homme. Il portait une blouse verte de chirurgien, un passe-montagne noir et des lunettes à verre réfléchissant qui dissimulaient totalement ses yeux. Harold pensa aux lunettes de soleil de Kepler, puis au tueur psychopathe de la série de films qu'il avait produit avec Willy, La Nuit de Valpurgis. Il faillit en pisser sous lui. Ce n'était pas Willy. Harold en eut immédiatement la certitude. En outre, son âge et son gabarit ne correspondaient pas à ceux de Tom Reynolds, le pion gay de Willy aux mains d'étrangleurs. Peu importait. Willy avait eu le temps de recruter une légion de corps de rechange. Harold essaya de posséder cet homme. Il essaya. Mais sa vieille révulsion l'envahit à l'ultime seconde, avec encore plus de violence que sa migraine et sa nausée récente, et il battit en retraite avant d'avoir touché l'esprit du nouveau venu. Harold aurait eu moins de répugnance à lécher l'anus d'un homme ou à sucer son pénis. La seule idée de toucher mentalement celui-ci lui donnait des sueurs froides.
« Qui êtes-vous ? Où suis-je ?»
La voix de Harold était à peine audible, comme si sa langue avait été un bloc de contreplaqué. L'homme se dirigea vers le lit et contempla le corps allongé de Harold. Puis il plongea une main dans sa blouse et en sortit un pistolet automatique. Il le braqua sur le front de Harold.
« Tony, » dit-il avec un doux accent, « je vais compter jusqu'à 5 avant de faire feu. Si vous avez l'intention de faire quelque chose, faites-le tout de suite. »
Harold tira sur ses menottes à en faire vibrer le lit.
« 1, 2, 3 ?»
L'esprit de Harold se tendit, mais 30 ans de conditionnement l'empêchèrent d'entrer en contact avec sa cible.
« 4 ?»
Harold ferma les yeux.
« 5 ?»
Le percuteur retomba, et on entendit un clic. Lorsque Harold ouvrit les yeux, l'homme se trouvait près de la porte et avait rengainé son arme.
« Avez-vous besoin de quelque chose ? » demanda-t-il de sa douce voix.
« Un bassinet !»
murmura Harold. Le passe-montagne s'inclina.
« L'infirmière va vous en apporter un. »
Harold attendit que la porte se soit refermée, puis il plissa les paupières pour mieux se concentrer.
« Une infirmière !» pensa-t-il. « Bon Dieu, une authentique infirmière, avec des robes et un trou entre les jambes !»
Il attendit. L'infirmière n'était autre que la noire, la femme de Philadelphie, celle qui lui avait tiré dessus et l'avait conduit ici.
Il se rappela son nom, Nathalie.
Il lui devait un chien de sa chienne. Elle ne portait pas de passe-montagne, mais elle avait des pansements sur les tempes et des fils électriques dans les cheveux. Elle tenait à la main un bassin hygiénique qu'elle mit en position d'un geste assuré. Puis elle se recula et attendit. Harold lui frôla l'esprit tout en se soulageant. Personne ne l'utilisait. Il n'arrivait pas à croire qu'il puisse être si stupide, qui qu'il soit. Peut-être cette salope de négresse agissait-elle seule avec un complice. À en croire Colben, elle et son shérif en avaient après Mélanie Fuller. De toute évidence, il ne savait pas de quoi il était capable. Harold attendit qu'elle ait récupéré le bassinet et qu'elle se dirige vers la porte. Il devait s'assurer que celle-ci n'était pas verrouillée. Ça ressemblerait bien à Willy de les enfermer tous les deux dans la même pièce, de lui donner un sujet à utiliser sans qu'il puisse l'utiliser.
Qu'est-ce que c'était que ces fils dans ses cheveux?
Harold avait vu le même genre de truc au cinéma, mais sur des patients, pas sur des infirmières. Des électrodes, sans doute. Elle ouvrit la porte. Il l'attaqua si brutalement qu'elle laissa tomber le bassinet, aspergeant sa blouse blanche d'urine.
« Pas de peau !»
pensa Harold tout en lui faisant franchir le seuil, découvrant le couloir par l'entremise de ses yeux.
« Va chercher les clés » ordonna-t-il.
«
Tue-moi l'autre connard, va chercher les clés et fais-moi sortir d'ici. »
Le couloir faisait moins de 2 mètres de long et s'achevait sur une autre porte. Celle-ci était verrouillée. Il jeta Nathalie contre elle jusqu'à ce qu'il sente son épaule céder, lui ordonna de griffer les vantaux de bois. La porte ne bougea pas d'un pouce. Et puis merde. Il la ramena dans sa chambre. Rien qui puisse servir d'arme. Elle se dirigea vers le lit, tira sur les menottes. Si elle pouvait démonter le lit, démolir les montants... Mais cela lui prendrait du temps, vu que Harold était attaché à la tête et aux montants. Il s'examina par l'intermédiaire des yeux de la jeune femme et découvrit des joues blanches et mal rasées, des yeux fixes et écarquillés, des cheveux sales et graisseux. Le miroir. Harold le regarda et sut qu'il s'agissait sûrement d'une glace sans teint. Il ordonnerait à Nathalie de le briser à main nue si c'était nécessaire. S'il ne donnait pas sur une sortie, il lui ordonnerait d'attaquer le connard au passe-montagne avec un éclat de verre. Si le miroir refusait de se briser, il conclurait qu'il s'agissait d'un miroir ordinaire et la regarderait s'écraser le visage dessus jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'une masse d'os et de chair noire. Ça donnerait à réfléchir à ses complices. Et quand il finirait par rappliquer, elle leur déchirerait la gorge avec ses ongles et ce qui lui resterait dedans. Puis elle s'emparerait du flingue, irait chercher les clés. La porte s'ouvrit et l'homme au passe-montagne entra. Nathalie pivota, se ramassa pour bondir. Elle rugit comme un animal enfermé dans une cage à l'heure du déjeuner. L'homme au passe-montagne appuya sur la détente de son pistolet et lui logea une fléchette dans la hanche. Elle bondit, toute griffe dehors. L'homme l'attrapa au vol et la posa doucement sur le sol. Il s'agenouilla près d'elle pendant 1 minute, lui prit le pouls, lui souleva une paupière pour examiner son œil, puis il se redressa et se dirigea vers le lit. Sa voix était tremblante.
« Espèce de salaud !»
dit-il. Il fit demi-tour et sortit. Lorsqu'il revint, il était en train de remplir une seringue à un flacon. Il fit jaillir quelques gouttes et se tourna vers Harold. « Ceci va vous faire un peu mal, Mr. Harold, » dit-il d'une voix tendue. Harold essaya d'écarter son bras gauche, mais l'homme lui planta la seringue dans la hanche à travers le tissu de sa blouse. Tony Harold sentit l'engourdissement le gagner, puis il eut l'impression qu'on lui avait injecté du scotch directement dans les veines. Une flamme rugissante monta de son ventre à sa poitrine. Il hoqueta lorsque la chaleur envahit son cœur.
« Qu'est-ce que c'est ?»
coassa-t-il, sachant que l'homme au passe-montagne venait de le tuer. Une injection mortelle, comme disaient les journaux. Harold avait toujours été un partisan de la peine capitale.
« Qu'est-ce que c'est ?»«
Taisez-vous, » dit l'homme. Et il lui tourna le dos, alors qu'un flot de ténèbres tourbillonnantes emportait Tony Harold comme un fétu de paille.